Qu'est-ce que vous retenez de quelqu'un quand vous le rencontrez ? Son nom, ses yeux ou d'autres choses peut-être ? À cette question, Björk répond « la voix ». Et elle ajoute « je chante comme je respire ». C'est extraordinaire de produire un son. Ras-le-bol de subir les musiques d'ambiance qui envahissent tout. Chantez, vous devriez essayer. La voix de Björk est dans Pop & Co ce matin, avec une plongée dans ses 5 premiers albums. Elle est apparue au début des années 90 et la presse parlait d'elle comme d'un elfe ou d'un ovni, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas qualifier le nouveau modèle féminin et le nouveau modèle d'artiste total qu'elle était en train d'inventer. Elle est née en Islande et a fait exister son île sur la carte de la pop mondiale. L'Islande a façonné Björk et elle a composé une musique universelle. En 2015, le Museum of Modern Art de New York lui consacrait une grande exposition pour saluer son importance dans la création contemporaine. Björk fait partie des rares qui ont fait entrer l'avant-garde, les expérimentations sonores et visuelles dans les yeux et les oreilles de tout le monde. Dans vos oreilles, il y aura aussi l'orchestre et la voix d'un musicien français ce matin. Il s'appelle Sébastien Tellier. Porté par le vent est le titre d'un de ses nouveaux morceaux. On en suivra les pistes un peu avant midi. Et il me reste à vous dire bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Elle regarde droit dans l'objectif, sans sourire. Sa frange n'est pas coupée droit, ça fait même un arc de cercle sur son front, et elle l'a peut-être taillée toute seule. La photo date de 1976. Björk a 11 ans. À l'école, les élèves doivent lire un poème ou chanter quelque chose. Elle choisit de donner sa version d'un tube disco de l'époque. C'est « I Love to Love » de Tina Charles. He wants to dance, he loves to dance, he got to dance, oh, I love love. But my baby just loves to dance, oh, I love love. But there's no time for a romance, no, no, no. En 1976, ça fait seulement 22 ans que l'Islande est un pays pleinement indépendant après 6 siècles de domination danoise. Les parents de Björk Gudmundsdóttir appartiennent donc à la première génération née dans un pays libre et souverain.
Alors elle a grandi entre des parents séparés.
Lui vit à Londres et s'appelle Jean-Daniel Beauvalet. Dès la fin des années 80, il suit le parcours de Björk pour le magazine Les Inrecuptibles et on reprend tout depuis le début.
Alors elle a grandi entre des parents séparés. Son père était président du syndicat des électriciens d'Islande et sa mère vivait dans une communauté hippie, donc avec une différence de style de vie complètement sidérante pour elle. C'est-à-dire qu'à 10-12 ans, elle se retrouve déjà à s'occuper des enfants dans la communauté hippie parce que les parents sont trop occupés à méditer, à faire je ne sais ce qu'on fait dans une communauté hippie. Et voilà, elle se retrouve livrée à elle-même très très jeune.
Un enseignant de l'école de Björk envoie cet enregistrement à la radio islandaise. Tout le monde l'entend puisqu'à l'époque, il n'y a qu'une seule station dans le pays. Et ça tombe dans les oreilles d'un patron de label.
Son premier album, elle l'enregistre à 12 ans. Donc elle s'est retrouvée à tourner dans tout le pays, dans toute l'Islande avec sa maman qui l'accompagnait pour enregistrer ici et là. C'était une expérience déterminante parce qu'elle est déjà une petite starlette à 12 ans. Les gens la reconnaissent dans la rue, les gens lui demandent des autographes dans les rues de Reykjavik déjà.
Alfur út úr hol. Pour la prononciation des mots en islandais, toutes mes excuses d'avance, mais je me relance. Alfur út úr hol, c'est la traduction en islandais de The Fool on the Hill, une chanson des Beatles sortie en 1967. Et c'est l'un des morceaux que Björk interprète sur son premier album. Elle reprend aussi du Stevie Wonder, des chansons islandaises traditionnelles, et elle réussit même à placer une de ses compositions. Le groupe qui l'accompagne est celui de son beau-père, et elle, elle joue de la flûte.
Oh.
l'album est un succès. La gamine est lancée, et on pourrait imaginer le parcours classique d'une enfant star cornaquée par sa mère. Mais quand la maison de disques propose à Björk d'enregistrer un second album, Björk, 12 ans, dit non. Elle s'achète un piano avec l'argent qu'elle a gagné et elle fonde un groupe avec des copines. Ça s'appelle Spit and Snot, ça veut dire crachat et morve. On est en 1979, Björk a 14 ans et il n'est plus vraiment question de reprendre les Beatles. C'est l'histoire d'une gamine élevée dans une communauté hippie et qui passe sans transition du pouvoir des fleurs au punk. Au mi-temps des années 70, c'est aussi le parcours de la jeunesse anglaise. Mais en Islande, la scène musicale est toute jeune. Björk y participe avec d'autres groupes comme Tapiti Karas, qui veut dire « tape sur le cul de la vieille », ou Kukul, qui veut dire « sorcellerie ». À ce moment-là, Björk fait partie d'un collectif culturel et politique dont la devise est la suivante. « Le bon goût et la retenue sont les ennemis de la création ».
C'était vraiment des groupes anarchistes. Hein. C'était un peu les Pussy Riot de l'époque, Kukul. Mais là encore, c'est une gamine, hein, quand on la voit à Paris. Je pense que la première fois qu'elle joue à Paris, c'est aux Nuits de la Saint-Vitus, un festival qui avait lieu à l'Eldorado. Elle a 16 ans, à mon avis. Et c'est là qu'on la rencontre pour la première fois. Et on est séduit par son côté un peu enfant sauvage, déjà. On a l'impression qu'elle a vraiment des problèmes de communication avec les adultes, ou même les gens de son âge. Elle ne sait pas s'y prendre. Et elle a limite de l'agressivité, mais ça c'était le propre de tous ces groupes. Elle s'est entourée de gens assez agressifs pour la protéger. Que ce soit Kukul, que ce soit les Sugar Cubes, c'était pas des gens très faciles à vivre et je pense qu'ils faisaient le sale boulot pour la protéger, elle.
C'était des gens difficiles à interviewer ?
Très difficiles à interviewer, très difficiles à vivre au quotidien parce qu'ils étaient tout le temps dans l'ironie, tout le temps dans le deuxième degré, donc on savait jamais à qui on parlait vraiment. Moi j'ai le souvenir d'une interview des Sugar Cubes, ça doit être en 1988, où ils se sont foutus de ma gueule pendant toute l'interview en islandais devant moi. Donc c'est quand même pas toujours très agréable. Et elle qui essayait justement d'arranger les choses, d'être plus conciliante, d'être... On la sentait un peu gênée par ce côté punk qui aurait dépassé l'âge limite de consommation. D'ailleurs, il y a un truc assez drôle, c'est que on avait fait une interview avec elle pour les Inrock dans un hôtel un peu chic de Reykjavik qui s'appelle le Borg Hotel. Et où bien sûr tout le monde la connaissait, et elle m'avait expliqué que quand ils étaient punk, c'était leur squat préféré. Donc en fait, c'était un hôtel de luxe qui était devenu un squat, dans lequel ils répétaient, ils faisaient des performances, ils faisaient de la peinture, ils faisaient un peu tout ce qu'on fait quand on est punk et squatteur. Ça ressemble à ça sa carrière, passer du punk rock à un côté un peu plus notable, un côté un peu plus rangé des bécanes.
En 1987, les Sugar Cubes sont repérés par le NME, New Musical Express, magazine anglais de référence. Les Sugar Cubes font la une en Angleterre cette année-là. Les Sugar Cubes sont issus d'une mouvance dada et surréaliste au départ. Le personnage principal de ce morceau, Birthday, est une gamine de 5 ans qui, je cite, « gratte la terre avec ses doigts et sa bouche ». Elle garde des araignées dans sa poche, rassemble des ailes de mouche dans un vase et fume le cigare avec un ami. À l'époque, le seul groupe scandinave connu vient de Suède, c'est ABBA. Et voilà qu'Abares, des musiciens et une chanteuse venus d'une île située au beau milieu de l'Atlantique Nord, entre la Norvège et le Groenland.
À l'époque, un groupe islandais, ça faisait sourire. Aujourd'hui, on ne sourit plus du tout quand on pense à la carrière qu'a eu Björk ou d'autres artistes islandais.
Elle a fait exister l'Islande sur la carte mondiale de la pop, finalement.
Ah, complètement. Entre les premières fois où on est allé à Reykjavik, tout ce qui était accueil des étrangers, les hôtels, les restaurants étaient quand même assez limités. C'est devenu un centre de tourisme mondial très très important. Et je pense que Björk y a énormément contribué parce qu'elle a été utilisée comme figure de proue de ce que pouvait être l'Islande, ce côté à la fois chaleureux et glacial, ce côté à la fois explosif et très très cultivé. Elle a vraiment été utilisée, mais alors à son corps défendant, parce qu'elle a toujours détesté ça.
1992. Björk a quitté les Sugar Cubes et l'Islande pour s'installer à Londres. En ce début des années 90, l'Angleterre est l'épicentre de nouveaux sons. Björk va participer à modeler et à élargir les horizons musicaux de cette scène émergente avec son premier album intitulé Debut. Debut, réalisé par un Anglais né à Bristol, c'est Nelly Hooper. On est en 1993. Frédéric de Klerk et Nelson Mandela reçoivent le prix Nobel de la paix. Bill Clinton est élu président des États-Unis. Le grand marché unique européen voit le jour. Et cette fille chante « Je suis violemment heureuse ». Je me tiens face à l'océan, il gronde en moi et je hurle en retour. Je défie les gens de sauter par-dessus les toits avec moi. Je m'enivre, je conduis trop vite, je vise trop haut. Apaise-moi. Dans l'histoire de la pop musique, à la fin des années 60, en tout cas, ou tout au long des années 60, la pop musique, elle pouvait aussi être expérimentale avec les Beatles ou avec les Beach Boys. Elle renoue avec cette tradition-là ?
Vous avez complètement raison. C'est exactement cette tradition qui a été un peu entretenue dans les années 70 avec des artistes comme Kraftwerk ou surtout David Bowie, qui l'a fait très très bien, de choses qui étaient à la fois avant-gardistes, on pense à des 45 tours des Beach Boys, à des 45 tours des Beatles, comme des choses comme Helter Skelter des Beatles, des choses qui n'étaient pas de la pop à papa, ce que j'appelle, c'est-à-dire de la pop normale avec pont refrain, etc. Et Björk a renoué avec cette tradition sans le savoir et sans le vouloir. Hein. Elle l'a fait par goût, par goût du risque. C'est vraiment naturellement une cascadeuse. Come on, girl. C'est aussi l'âge d'or des raves et des clubs. Dans ce morceau, Björk raconte une fête dont elle veut partir parce qu'elle s'ennuie. Alors elle s'adresse à ses copines et leur dit « Venez les filles, il y a mieux à vivre que ça. C'est le matin et il est encore tôt. On pourrait descendre au port, sauter entre les bateaux et assister au lever du soleil. » La chanson a été enregistrée en live au Milk Bar de Londres. Et à un moment, Björk quitte la scène, elle se dirige vers les toilettes et continue de chanter.
And sneak off to this island. I could bring my little ghetto blaster. There's more to life than this. But then we'd have to rush back to the town's best baker to get the first bread of the morning. There's more to life than this.
Et les filles, on pourrait piquer un bateau et s'enfiler hors de cette île. Je pourrais emmener mon petit radiocassette. Après, faudra rentrer vite pour aller chez le meilleur boulanger de la ville pour avoir le meilleur pain de la matinée. Dans quelle mesure c'est la première star d'après le rock ?
C'est vrai, je ne m'étais jamais fait de la réflexion, mais je sais si on l'a interviewé souvent, Björk, et on n'a jamais parlé de rock. Effectivement, c'est curieux. En tout cas, c'est la première personne dans la pop à intégrer aussi brillamment tout ce qui existait en même temps qu'elle, ce côté vampire, qu'elle partage avec David Bowie d'ailleurs, a fait toute sa puissance, c'est-à-dire qu'elle elle est tout le temps à l'affût des nouveaux sons, comme le sont aujourd'hui d'ailleurs les principaux rappeurs, des Kanye West, des gens comme ça, qui sont toujours à l'affût de ce qui se passe ailleurs, ce que le rock ne sait plus faire du tout, se nourrir d'autre chose que de simple rock.
Au fil d'une interview parue en 2001 dans le magazine des Inrecuptibles, Björk déclare « Je veux m'approcher d'une pop musique à la fois expérimentale et parfaitement accessible. L'attitude de Stockhausen et les refrains de Boney M. » Björk fusionne house, jazz, musique indienne et s'inspire aussi de ceci. Un morceau du Brésilien Antonio Carlos Jobim, composé pour le film Les Derniers Aventuriers. Avec Nelly Hooper, Björk transforme ce motif et ça devient...
Je me souviens très très bien de l'avoir écouté en boucle pendant des mois et des mois cet album en se disant voilà combien on va être à aimer ce genre de musique parce que on s'attendait vraiment pas à ce que ce soit un tel succès international. Elle adoptait à la fois un côté très très pop et en même temps déjà un côté assez radical, assez aventureux.
Dans quelle mesure c'était aventureux ?
Elle incorporait des éléments de musique qui n'étaient pas pop à sa musique à elle. Des éléments qui venaient de la techno, qui venaient des musiques électroniques qui étaient en plein développement à ce moment-là. Elle transformait tout, même des choses très avant-gardistes, en pop musique. Moi, j'ai le souvenir d'une interview avec elle dans la lande givrée, glacée, à l'extérieur de Reykjavik, où on était là en train de monter une session photo avec elle et Michel Gondry, le réalisateur. Et à un moment, elle a dit « Je vais me promener dans la neige pendant que vous installez le décor ». Elle est partie tout seule dans la neige, les pieds nus dans ses godillots, avec un énorme magnétophone à cassette sur l'épaule, qui passait de la musique techno, mais très très violente, de la musique faite à base de billes métalliques qui résonnaient sur une plaque de métal. Donc c'était quand même assez abscon. Et d'un seul coup, elle s'est mise à hurler, à chanter, et c'est devenu vraiment de la pop musique. On s'est dit à l'époque, comment est-ce qu'elle réussit à transformer des choses aussi tordues, aussi compliquées, aussi presque inabordables, en pop musique, et ça c'est le propre des grands artistes comme Bowie, comme d'autres avant elle.
Right at
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Et aujourd'hui, Pop & Co et Björk. C'est l'histoire d'une artiste qui a fait voler en éclats les canons féminins de la pop. Ici Londres, le journaliste Jean-Daniel Beauvallet est au bout du fil.
Ça n'a jamais été une poupée de cire, poupée de son, Björk. Elle a toujours été une forte tête, jusqu'à se battre dans les aéroports quand des paparazzis essayaient de la photographier avec son fils. Mais ça, c'est propre à son éducation islandaise. Je pense que les femmes ont un rôle beaucoup plus fondamental, beaucoup plus central que dans d'autres pays d'Europe. Les femmes premières ministres, c'est courant en Islande. La société a forcément déteint sur elle. Elle a été élevée par une femme très forte aussi, sa maman. Elle a ouvert la porte à énormément de filles. Hein. Je pense que, d'une certaine façon, des PJ Harvey, des gens comme ça, ont été rassurés sur leur place dans la pop musique ou dans le rock par des gens comme Björk, qui leur ont prouvé qu'on n'avait pas à jouer le jeu, qu'on n'avait pas à se transformer en potiche. Björk a prouvé qu'on pouvait écrire ses propres chansons, les produire, les conceptualiser, les mettre en images, tout maîtriser, tout contrôler et en même temps avoir du succès.
Si les années 80 ont appartenu à Madonna, les années 90 seront celles de Björk. Madonna avait imposé une figure forte, ultra sexualisée. Björk est tout aussi puissante, mais avec elle, on trouvait un modèle d'un genre inédit. Sachant qu'au début des années 90, on sortait quand même de l'ère des top modèles. Et c'était d'ailleurs assez anxiogène, toutes ces filles qu'on voyait partout, avec des silhouettes inaccessibles. Mais avec Björk, être sexy, ça n'était plus l'enjeu. Elle avait un corps, et ce corps, elle le faisait entendre dans sa voix. À son sujet, le critique musical américain Alex Ross écrit « L'art du chant consiste souvent à masquer le caractère physique de la voix, le bruit de la respiration, l'éclatement de langue, le son rauque de la gorge. Björk n'a jamais cherché à dissimuler tout ça. Sa voix a un caractère brut, abrupt. Elle travaillera de longues années pour affiner cette présence vocale qui inspire souvent des adjectifs comme « organique » ou « authentique ». It's oh so quiet. Shh. It's oh so still.
Je me souviens qu'on parlait d'une voix de sorcière, on était paumés. Les seuls exemples qu'il y avait un petit peu, c'était d'une certaine façon Kate Bush ou les Cocteau Twins, mais ils n'allaient pas aussi loin à l'intérieur avec leur chant. C'était vraiment un truc complètement sidérant et assez déstabilisant finalement, parce que ça ressemblait à rien et ça semblait venir de très très loin par contre.
Mais il y a une impudeur dans sa voix.
Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Sa voix, c'est un truc qui remonte de très très loin, à la fois dans le passé et dans son corps, de son corps. Ça vient de parties du corps qui sont rarement connectées à la voix. Il y a un côté très, pour le coup, très très sexuel dans son chant, très très viscéral. Oui, je suis 100% d'accord avec vous sur le fait que sa voix remonte de parties du corps que l'on n'interroge jamais.
Et en tout cas, que les femmes n'avaient pas vraiment fait exister jusque-là dans la pop.
Non, d'une certaine façon, peut-être Janis Joplin, des gens comme ça, qui allaient très très loin, à la limite de la transe, parce qu'il y a ce côté un petit peu, sur le chant de Björk, un côté à la fois très très maîtrisé, et en même temps, un côté de transe, de laisser-aller, qui est assez phénoménal. Le laisser-aller qu'elle utilise sur scène, hein, où elle se lâche complètement, elle change les paroles, elle change les mélodies, elle prend toutes les libertés possibles.
1995, Björk publie Post, son deuxième album. L'année suivante, un fan américain lui envoie un colis piégé bourré de vitriol. Pour Björk, c'était la défiguration ou la mort assurée. La police britannique a intercepté le colis in extremis. 1997, Björk sort Homogenic, son troisième disque, et il s'ouvre avec cette chanson, Hunter, chasseuse. If travel is searching and home what's been found, I'm not stopping. Elle dit « Je pensais pouvoir organiser la liberté. C'est tellement scandinave de ma part. Maintenant, je laisse tout ça derrière moi. Je suis la chasseuse. »
Il y a un côté boléro de Ravel qui est très très marqué, et on sait tous que le boléro de Ravel est une musique, c'est une l'œuvre d'un démon, c'est la musique répétitive. Lors de la première représentation du boléro de Ravel, une femme s'est levée, s'est insurgée, elle dit « mais cet homme est fou !» Et Ravel s'est levé, il a dit « merci madame !»
Pour vous, Hunter est proche de ça?
Pour moi, Hunter, c'est un morceau de... Oui, dans son côté lancinant mais répétitif, c'est un côté qui vrille le cerveau, qui se met dans votre tête et qui n'en sort plus. J'adore cette chanson, déjà parce qu'elle a une histoire un peu personnelle. On était parti à Reykjavik avec le photographe Renaud Monfourny pour faire une interview et une photo de couve de Björk. Et quand on est arrivé, on a appelé et elle nous a dit « mais vous n'êtes pas du tout prévu au programme ». J'avais dit « je ne faisais pas d'interview, je suis désolé, mais vous êtes venu pour rien ». Rappelez-moi quand même demain, parce que j'essaie de comprendre pourquoi la maison 10 m'a mis devant le fait accompli. Donc pendant 3 jours, on a tourné en Islande. On avait une voiture de location avec un radiocassette à l'époque. Et on écoutait The Hunter en permanence, toute la journée. Et donc, c'était la bande-son de cette moment d'absurdité où on se promenait dans l'Islande en attendant le coup de fil de Björk en écoutant The Hunter.
Dans le clip de ce morceau, Hunter, la tête de Björk occupe tout l'écran et elle a le crâne rasé. Plus la chanson avance et plus son visage devient la gueule d'un ours par le biais des effets spéciaux. Avec sa musique, sa voix, les images qu'elle a co-conçues, Björk a réussi à créer un monde où cohabitent la technologie la plus pointue et la nature la plus sauvage. L'un et l'autre compatibles, l'un et l'autre pour un futur possible. Or, dans les années 90, la planète brûlait déjà, mais comme disait Chirac, le monde regardait ailleurs. Une fille venue d'Islande mettait déjà le cosmos et la Terre en scène dans ses chansons.
Il y a beaucoup d'analogies entre effectivement ce qu'est la musique de Björk et ce qu'est son pays. Parce que la nature, elle est encore en chantier en Islande. C'est un pays qui n'est pas fini, on a l'impression que ça bouge encore, que ça pousse encore, que ça fume encore, comme pouvait être la Terre à ses débuts. Donc, quand on vient d'Islande, on a une espèce d'humilité vis-à-vis de la nature qui est très très puissante, parce que on sait que la Terre est hostile, on peut mourir dans une crevasse, on peut mourir en mer, on peut mourir dans un volcan.
Jean-Baptiste Mondino, Michel Gondry, Alexander McQueen, Inès van Lamsverde et Vinod Matadin, des photographes, réalisateurs, couturiers du monde entier avec qui Björk a inventé des images. Depuis plus de 20 ans, elle collabore avec un duo d'artistes français qui s'appelle M&M. M&M comme Michael Amzalag et Mathias Augustiniak. Depuis 2001, il co-crée avec Björk un univers visuel où elle ne cesse de se transformer.
Pour chacun des albums, elle définit le personnage dans lequel elle est, qui est celui qui va composer la musique, la chanter et la représenter, être photographiée. Tout vient du personnage. Les premières conversations qu'on a avec elle autour de chaque album sont sur la définition du personnage. Très tôt, elle nous parle des couleurs, avant même qu'elle enregistre les chansons.
Pour chaque album, si c'était un personnage différent, on imaginait qu'il avait un langage qui lui était propre. C'est-à-dire que ce qui fait la particularité d'une personne, c'est son écriture. Et c'est pour ça que, avec elle, ce qu'on a inventé, ce qui n'avait jamais été avant inventé dans l'histoire de la musique, c'est trouver une écriture typographique qui traduise à chaque fois le personnage qu'elle incarne lors de chacun de ses albums.
Il n'y a pas cette idée de vouloir être belle?
Je pense que ce qui est primordial pour elle, c'est l'idée de coller de la manière la plus juste au personnage, sachant que tous ces personnages sont autant de représentations d'elles-mêmes, mais augmentées, fictionnalisées, amplifiées, et qui viennent faire écho à la fois avec les thématiques de l'album et à la fois avec le monde dans lequel ils apparaissent. Et effectivement, à aucun moment il s'agit d'être belle ou il s'agit d'être jolie. Quand on choisit une image, les conversations peuvent durer très 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 longtemps parce que la mèche de cheveux n'exprime pas la bonne énergie ou parce que la position des mains n'est pas celle du personnage. C'est toujours en ces termes-là et c'est jamais en termes de « il faudrait retoucher un peu pour me rendre plus mignonne ». Ça, c'est jamais le cas.
Depuis 1993, Björk a publié 9 albums. Et à partir du troisième, paru en 1997, les ventes de ses disques ont décliné sans que ça ne l'affecte. Elle continue de composer et de parcourir le monde avec des spectacles insensés.
Elle se fout de savoir si ses titres passent à la radio ou pas. Elle déclare une forme d'indépendance par rapport à l'industrie de la musique dans laquelle elle est d'abord une auteure et une compositeur et une interprète. Avec une audience qu'elle a créée et qu'elle entretient, mais qu'elle n'entretient pas de manière désespérée en essayant que ce soit la plus grande audience possible. Elle ne fait que des choix qui sont des choix artistiques. Quand elle tourne et qu'elle crée des concerts qui sont des événements dans lesquels elle invite des douzaines de choristes, qu'elle développe ses propres instruments, enfin c'est un investissement qui est colossal, qui n'est jamais rentable.
Elle prend la parole, elle, en tant que femme, sans se soucier de ce que pourront dire les autres d'elle-même, quoi. Elle dit « je », comme Marguerite Duras qui, à un moment... écrit et dit « je » et ne pense qu'à Marguerite Duras. Et dans la pop musique, c'est, je dis pas qu'elle est la seule, hein, c'est juste qu'elle continue cette histoire. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape.
Björk sera en concert à la scène musicale de Boulogne-Billancourt les 21 et 24 juin prochains et elle devrait publier un nouvel album d'ici la fin de l'année. Jean-Daniel Beauvallet, que vous avez entendu tout au long de ce Pop & Björk, vient de publier un livre aux éditions Braquage, ça s'intitule Passeur, puisque Passeur est son métier de journaliste musical. De M à M, c'est la monographie de ce duo d'artistes paru aux éditions de La Martinière, et je voulais vous signaler aussi Björk, une artiste totale, titre du nouveau volume de la revue Musique Contemporaine, piloté par Martin Guerpin et Grégoire Tosser.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Il y a des trucs un peu connus ou c'est des trucs... J'espère que je vais en connaître une au moins.
Sébastien Tellier, musicien, chanteur, compositeur, devrait connaître au moins l'une des 80 chansons diffusées en ce moment sur France Inter. Ça va de A comme Arthur H, à W comme Wet Leg, en passant par Stromae ou Caetano Veloso. Et donc, le disque choisi par Sébastien Tellier est...
Alors, attends, je vais essayer de bien le faire. Alors, le titre que je choisis, c'est un titre de Métronomie, et c'est Things Will Be Fine. Ça va ? C'est léger.
Je vais changer le monde. Tout va bien se passer. Ce sont quelques-uns des vers de cette chanson, écrite par l'anglais Joseph Mount, patron du groupe Métronomie. Things Will Be Fine, c'est donc le titre de ce morceau, issu du nouvel album de Métronomie, paru le mois dernier.
Forget that I was only your lover.
Bonjour. Bonjour.
Paris, 9e arrondissement, studio Motorbass.
Bienvenue.
Merci. J'ai rendez-vous. Ouais. Avec Sébastien Tellier. Bonjour.
Ça va?
Ça va bien?
Yeah.
Et vous?
Attends, t'es toute seule comme ça?
Ah ouais.
Ceci dit, j'avais quand même un orchestre de 30 violons dans la poche. L'orchestre qu'on entend dans ce morceau de Sébastien Tellier, intitulé « Porté par le vent ». On va en suivre les pistes jusqu'à midi. Sébastien Tellier publie des disques depuis 21 ans et à chaque fois, il aborde les grands sujets. La famille, la politique, le sexe, la religion. Son dernier album était dédié à la vie domestique. Et Sébastien Tellier le présentait en disant « Une pop star équilibrée fait le ménage ». Et là, il publie 4 nouvelles chansons composées pour un défilé Chanel. On est donc passé des gants Mappa à la haute couture. C'est raccord avec le bonhomme, finalement. Sébastien Tellier porte des mocassins vernis et un pantalon en pilou-pilou. Il a l'image d'un personnage branché de la scène électronique et il fut candidat français au concours de l'Eurovision en 2008. Je voulais savoir comment vous était venu le goût des mélodies.
Les mélodies, ça m'est venu surtout, c'est venu de mon apprentissage musical. C'est-à-dire, la musique pour moi, ça a surtout été jouer de la guitare avec mon père le samedi après-midi. Et donc, mon père est un excellent guitariste rythmique. Donc, c'est là où j'ai développé, je pense, mon sens de la mélodie, parce que finalement, c'était la seule place que je pouvais prendre par-dessus ce que faisait mon père à la maison.
Et là, par exemple, quelle mélodie a compté pour vous?
Moi, j'ai beaucoup aimé Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. C'est vraiment une chanson qui, quand j'étais petit, pour moi, je sais pas, c'est une chanson respectable. Il y avait un truc réussi, mais sans réussir vraiment à mettre des mots dessus. Mais de toute façon, Michel Legrand, en général.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau.
J'ai toujours admiré ceux qui faisaient des musiques de films. Je trouve que il y a un truc magique, je sais pas, ça marche vraiment sur moi, mais je suis pas le mec qui va chiner tout le week-end, une BO, je sais pas quoi. C'est vraiment en termes de style, je trouve que c'est la classe et il y a une intelligence de la musique que j'adore chez ces mecs-là, donc Delerue, François de Roubaix, Michel Legrand. Faire de la musique quand on est français, c'est pas facile parce que, à mon sens, c'est pas possible de rapper aussi bien que les Ricains, c'est pas possible de faire de la pop aussi bien que les Beatles, tous les créneaux sont archi-bouchés par les autres. Donc finalement, quand on est français, il reste pas beaucoup de choses pour avoir la grosse classe, et pour moi, je trouve que ce type-là d'accords, de musique de film, c'est cette science-là de la musique, ouais, ça c'est une vraie classe à la française. J'aime beaucoup le romantisme des mélodies françaises, etc., et surtout, c'est assez lyrique, je dirais.
Ce lyrisme-là, c'est ce que vous cherchez aussi?
C'est mon naturel. J'ai tendance à faire quand même des chansons ou des morceaux assez mid-tempo ou lents. Je suis pas très bon dans tout ce qui est rapide. J'en fais des rapides aussi, parce que je veux pas que les albums soient totalement ennuyeux. Donc parfois, je mets des chansons un peu dansantes. Mais ma musique naturelle, c'est un tempo assez lent. Et donc, oui, ça donne envie, évidemment, de rajouter par-dessus des belles mélodies, entre guillemets.
Et si la chanson « Portée par le vent » de Sébastien Tellier était une couleur?
Alors, il y a très longtemps, il y avait des voitures, c'était les Simca Horizon. Il y en avait pas mal qui étaient un peu dorés. C'était un doré très particulier, j'imagine le doré Simca. Et c'est cette couleur-là que je vois.
Donc, « Portée par le vent », ce serait une voiture des années 80.
Oui, c'est un peu brinque-ballant, c'est funky, ça donne envie de partir en vacances. Ouais, carrément.
Ça représente quoi l'orchestre pour vous?
Je veux dire, c'est comme un film Disney quand on est petit, quoi. Il y a le château, il y a les étoiles, il y a une princesse. Enfin, tout devient soyeux, tout devient noble. On peut prendre n'importe quel morceau, à part peut-être les pires des pires, mais je suis sûr que n'importe quel morceau fait jouer par l'orchestre, tu ressens au moins un peu quelque chose, quoi.
Extrait des cordes seules de la chanson « Portée par le vent » de Sébastien Tellier, les arrangements d'orchestre sont signés du Canadien Owen Palette. La douceur, c'est important?
Pour moi, c'est important parce que j'ai peur de tout, en fait. Moi, je sors dans la rue, j'ai peur. Il fallait passer le bac, j'avais peur. Il faut prendre le bus, j'ai peur. Moi, tout me fait peur. Moi, j'ai besoin de me sentir protégé.
Et donc, la musique, elle doit avoir cette fonction-là, de protéger?
Effectivement, je me suis réfugié, on va dire, dans la douceur, mais qui est finalement la meilleure des cachettes. Voilà, mais c'est vrai que pas seulement ma musique doit être douce, mais aussi l'ambiance chez moi, tout ça, c'est doux, tout ça. C'est, j'aime bien les trucs doux, quoi.
On écoute la voix de la soprane.
Ouais.
Portez pas le vent.
Voici Samantha Louis-Jean.
Et dès que dès qu'elle s'est mise à chanter pour essayer un peu comme ça pendant les répétitions, je suis ah ok, elle, d'accord. On va retravailler souvent ensemble, ça, ouais. Et comme elle sait tout faire, on peut tout tenter et tout. En plus, elle a doublé ma voix. C'est-à-dire, on chante, bah oui, on se chante toute la chanson tous les deux. Et justement, elle fait vraiment l'envolée. Moi, il y a une transparence dans ma voix qui pourrait faire penser un peu à la transparence de l'eau. Et elle, par contre, elle est vraiment dans les airs, quoi. C'est les cieux avec sa voix.
Porté par le vent, l'amour s'envole. Porté par le vent.
Pour que ça passe, donc j'essayais plusieurs tons, mais ce qui passait bien, c'est quand je mettais énormément d'air dans ma voix. C'est-à-dire pas chanter avec une voix comme ça, directe, mais parler, chanter comme ça. Quand les gens qui chantent comme ça, les gens disent, oh, il sait pas chanter, il a pas de voix, comme ça. Donc, en fait, c'est super dur, parce qu'il faut remplir sa voix d'air. C'est-à-dire on expulse de l'air en chantant beaucoup plus que quand on chante normalement. Donc là, c'était dur d'aller jusqu'à la fin des phrases et tout. C'était assez dur de pas être maniéré. Parce qu'on a vite fait de faire « porte par le vent ». Mais pour que ça prenne vraiment la mélodie, il fallait un côté un peu désincarné, sans y mettre aucune intention, en fait.
Vous aimez ça, chanter?
Ouais, j'adore chanter. Je fais 27 prises de chant par chanson, mais c'est même pas parce que j'en ai vraiment besoin, parce que j'adore le refaire encore et tout. Après, aussi, la voix, pour moi, ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que j'ai fait un premier album quasiment instrumental, puis après, je me suis dit, bon, ça serait bien quand même de faire des chansons aussi. Donc, j'ai commencé à travailler ma voix un peu à partir du deuxième album, avec la ritournelle et tout. Et puis après, je suis devenu pote avec Christophe, Feu Christophe, bon, Christophe le chanteur, hein. Et là, si tu veux, j'ai rencontré, il a complètement changé ma perception de la voix, de c'est quoi être un chanteur, l'exigence vis-à-vis de soi-même pour bien chanter, etc. Et c'est à l'époque où il faisait aussi des concerts absolument fantastiques, où il réinventait chaque soir une façon de chanter ses chansons. Il changeait un peu les mélodies, les intonations et tout ça. Et là, j'étais tellement fasciné par son savoir-faire. Parce que comme on devenait potes, donc j'allais le voir souvent. Donc ça me permettait de comparer, tiens, ce soir il a fait comme ça. Et je voyais tout son talent, finalement, à travers cet éventail de façons de faire. Donc là, ça, c'est quelque chose que je travaille énormément aussi, pour essayer, bah, tout simplement, de chanter le mieux possible, quoi.
On écoute un synthé?
Allez, un synthé, ouais.
Ça, c'est musique répétitive, c'est presque anxiogène.
Ça, j'aime bien, justement, ça me fait beaucoup penser à De Roubaix, ça, vraiment.
François de Roubaix, qui était un compositeur de musique de film.
Voilà, François de Roubaix, il a fait Chapeau aussi.
Ouais.
Et c'est pas vraiment anxiogène, enfin si, c'est un peu anxiogène, mais il y a un côté scientifique, comme dans une scène de film où le mec il regarde au microscope, ça fait avancer l'enquête, ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça dans synthé que j'adore. Ce qu'il y a, c'est que je suis un peu trop, comment je pourrais dire ça, côté Gargantua, des synthés, des guitares. Je suis réellement passionné par le matériel, ça. Et donc, quand il y a plein de synthés dans un studio, plein de guitares, j'ai envie de tout utiliser. Donc, ça fait des couches et des couches d'instruments. Alors, je fais quand même un tri, évidemment, mais ça laisse quand même une certaine surcharge. Et c'est vrai que j'ai une façon de produire, je dirais un tantinet, faut bien l'avouer, trop baroque. Et souvent, je me suis dit, j'avais pas besoin d'en mettre tant. Et parfois, même assez souvent, je me suis dit, j'aurais dû juste mettre le piano, ma voix, puis ça aurait suffi.
Symphonique avec un C à la fin, c'est le titre du mini-album que Sébastien Tellier vient de publier et sur lequel figure Porté par le vent. Koy Nguyen a réalisé Pop & Co avec Thomas Langlin ce matin, Stéphanie Valois a préparé l'émission et Jean-Baptiste Audibert s'est occupé de la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co met le cap sur Toulouse avec Claude Nougaro. À samedi.